image sainte. Il a commencé à devenir contestataire. Il a dit, moi je ne suis pas d'accord. Je remets en cause la Trinité. Je remets en cause la virginité de Marie, etc. etc. Et non seulement, alors qu'il était dans la foi, ça détonne dans ce milieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a eu la même éducation que nous, une bonne bibliothèque. Et comment il tourne mal? Et ce personnage va se retrouver en très peu de temps, un an, donc c'est 1573, pratiquement 1575-1576, eh bien, il n'a plus le droit de porter l'habit des dominicains. Il est chassé du monastère et il doit vite partir parce que non seulement il est chassé, mais en plus il risque une excommunication doublée d'une persécution. Et donc il fuit plus qu'autre chose l'endroit où il a passé les meilleures années de son éducation. Alors, le problème, c'est qu'il faut vivre. Il faut vivre. Et à ce moment-là, il va donner des cours particuliers, des cours de grammaire, des cours de mathématiques, ici ou là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il a une réputation sulfureuse, il lui est difficile de pérenniser des acquis. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Enseigner? Mais il peut enseigner un temps et un jour on lui reproche. Il peut donner des cours de grammaire, mais il vivote plus qu'autre chose. Il survit. Et lui, ce qu'il aimerait faire, c'est récupérer les chaires de mathématiques, d'enseignement dans les plus belles universités italiennes. Je pense à Padoue, je pense à Brescia, je pense à Venise, je pense à Savone, Naples. Dans toutes ces villes, il rêve de pouvoir communiquer son enseignement puisqu'il maîtrise à fond son enseignement, sauf que il n'est pas, entre guillemets, en l'odeur de sa vie. Pour les raisons que j'ai indiquées, contestation, et il a tendance un petit peu à remettre en cause, j'allais dire, la manière pédante dont les enseignants lui communiquent leur savoir. Il sait très bien l'enseignement, il est bien, mais on me communique l'enseignement comme si l'enseignant connaissait tout. Et moi, Giordano Bruno, j'ai l'impression d'en savoir autant que l'enseignant, le maître. Alors un peu de modestie, s'il vous plaît, mais on lui dit, voilà, il faut comprendre le système. Alors, au départ, il appliquait la règle par le verbe et par l'exemple, pour vivre sa vie. Et c'était justement la devise du monastère. Mais comme il a été expulsé, il va vivre une vie de vagabond. Un jour, il se trouve dans une ville, une autre fois, il continue, etc. Une vie dans la précarité, la plus totale. Jusqu'au moment où, dans le cadre de ses pérégrinations, il va passer par Chambéry. Chambéry, où là, malgré tous les problèmes qu'il a dû subir, il va pouvoir enseigner un an comme enseignant titulaire. Il pourra même espérer d'obtenir la chaire d'enseignement général. Sauf que, malheureusement pour lui, son caractère le reprend. Il se prend de bec avec un des enseignants, Antoine de la Fée, qu'il estime n'être pas à la hauteur de l'enseignement. Et non seulement il a été accueilli et hébergé, on lui fait comprendre que désormais il est de trop, puisqu'on l'a salué, on l'a gardé pendant 2 ans, et il critique les enseignements qu'il a reçus. On le chasse de nouveau. Donc, il a fait Naples, il a fait le monastère principal en Italie, les principales villes où il y a les plus grandes universités. Il passe par Chambéry. Chambéry, ça ne marche pas. Que peut-il faire? Nous sommes, je vous rappelle, en pleine guerre de religion. L'Europe, et notamment la France, est littéralement à feu et à sang, puisque nous avons une guerre civile entre les catholiques et les protestants de l'autre. Doublé du premier conflit d'intérêts entre l'Espagne qui dominait le monde et la Grande-Bretagne qui lui dispute cette paternité. Donc l'Italie, il ne peut pas revenir d'une part parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté. La France, ça tourne mal, il va aller en Suisse. Il va aller en Suisse et la légende raconte qu'il s'est converti au protestantisme. Lui, il a toujours nié, on n'a jamais pu le prouver, ni dans un sens, ni dans un autre. Toujours est-il qu'il va suivre des enseignements pendant 1 an ou 2, et là aussi, son caractère le reprend. Il se prend de bec avec un des enseignants, et on lui fait comprendre qu'il est bien gentil, mais on le chasse. Je crois que les luthériens l'ont même excommunié d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'il a failli être excommunié une première fois en Italie, il n'a pas été excommunié, il est excommunié par l'autre camp. Que peut-il faire? Il retourne en France. Il retourne en France, il va passer par Lyon, il va passer par Toulouse, mais à chaque fois, c'est une vie précaire. Chaque fois, c'est du précaire et il commence à élaborer une opinion. Alors, ce personnage est hors du commun parce qu'à la fois, il est philosophe, écrivain, il écrit de nombreux livres, Le banquier des cendres, des signes, plusieurs ouvrages, écrivain, philosophe, et il s'intéresse à la cosmologie. Voilà le sujet qui nous intéresse. Et simplement, sans pouvoir prouver par l'expérimentation, nous sommes à la fin des années 1570, 1579, 1580, donc il a déjà effectivement coupé les ponts par rapport à son passé. Il va devenir athée à partir de 1584 et il s'intéresse aux expérimentations de la cosmologie en disant, mais justement, est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ou est-ce que ce serait l'inverse? Et à l'époque, nous avons effectivement, à part Copernic qui a lancé l'idée, mais Copernic avait déjà lancé l'idée avant sa mort, avant 1543, mais comme il était mort assez rapidement, il n'a pas souffert des foudres de l'Inquisition. Et toute personne qui reprenait les thèses copernicienne était très mal vue, à plus forte raison quand la personne qui récupérait les thèses coperniciennes était un ancien moine. Il était doublement coupable, doublement responsable. Aussi, à partir de 1584, donc, il change de bord, de l'athée, et il dit, mais je sais le comprendre, pour moi, par la simple force de la déduction logique, par la simple force de l'observation, sans pouvoir démontrer par une quelconque méthode empirique au niveau des expérimentations, il indique que pour lui, effectivement, le monde tel qu'on l'imagine n'est pas du tout ce monde. Il dit en réalité, vous voyez la Terre plate sur le 24, mais non seulement le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui, par un double mouvement, tourne autour du Soleil, et le Soleil n'est même pas le centre autour duquel tourne la Terre. À l'époque, il y avait deux camps. Ou bien la Terre tourne autour du Soleil, ou bien le Soleil tourne autour de la Terre. Et lui dit non, attention, la Terre tourne autour du Soleil par un double mouvement, mais le Soleil ne représente pas le centre du monde. Mieux que ça, il estime, d'après ses propres déductions, qu'il y a une infinité de mondes, que l'espace est pratiquement infini, et qu'on ne peut pas envisager l'espace comme simplement une barrière naturelle qui couvre la Terre. Toute cette vue d'esprit, il la critique ouvertement. En plus, je rappelle que depuis Aristote, qu'est-ce qu'on disait? On disait, la Terre est immobile. La preuve, c'est que quand vous montez en haut d'une tour et que vous lancez une pierre, la pierre tombe verticalement. C'est bien la preuve que la Terre ne bouge pas, disait Aristote. Et Jordan Bruno va dire, attention, c'est une grande erreur. En effet, je peux dupliquer la même expérience, par exemple, dans le cadre d'un bateau. Quand vous êtes en haut d'un mât et que vous lancez une pierre, la pierre tombe en bas, verticalement, alors que nous savons que le bateau est en mouvement. Ce qui signifie que l'expérience d'Aristote n'est pas valable. Puisque quand Aristote dit, je me place au cœur du système et la Terre ne bouge pas parce que la pierre tombe verticalement en haut d'une tour ou en haut d'un édifice, cela ne prouve, aux yeux de Giordano Bruno, strictement rien. Strictement rien. La preuve, le bateau. Autrement dit, l'expérience ne peut être vue que de manière relative, et on ne peut pas envisager que la Terre est immobile au vu de l'expérience évoquée par Aristote. Ce qui veut dire que depuis Aristote jusqu'au XVIe siècle, vous avez eu littéralement une pensée figée. Certes, il y a d'autres personnes qui ont dit attention, la Terre n'est pas plate, elle est ronde, etc. Ils étaient minoritaires. Ils étaient marginalisés, et ce, dès la Grèce antique. Au XVIe siècle, au plus fort d'un temps où les persécutions sont nombreuses, au plus fort d'un temps où l'Europe est en crise, on se tue depuis des dizaines d'années, entre 1550 et 1580, il est particulièrement osé, pour un homme qui est vagabond, qui est persécuté, excommunié, qui ne fait que survivre, de pouvoir étaler sur la place publique une thèse aussi iconoclaste. Toujours est-il qu'il le fait. Il fait cette thèse. Évidemment, ce n'est pas pour plaire au tout grand nombre, puisque, alors qu'il était à Toulouse, on lui fait comprendre qu'il est persona non grata. Donc, il a connu l'Italie. Il a connu Chambéry, il a connu la Suisse, il revient en France et ça ne marche pas. Jusqu'au moment où le destin va lui faire un petit clin d'œil. Alors que personne ne le protège, une personne va entendre parler de lui. Et cette personne n'est pas n'importe qui. Cette personne n'est autre que. Peut-être que quelqu'un le connaît. Non, pardon, on est 1580. Henri III. Henri III, le roi de France. Le roi de France, qui a entendu parler de la mémoire colossale de ce Giordano Bruno, va estimer que cet homme-là, il lui faut. Et il va lui demander de venir, qu'il se fait prier. Il vient et il va offrir à ce Giordano Bruno une chaire d'histoire au un collège prestigieux qui sera l'ancêtre du collège de France. Et Henri III va le protéger. Il va le protéger et en effet, pendant près de 4 ans, il va vivre les meilleures années de sa vie. Il est protégé par le roi, Henri III, intouchable. Il enseigne. Il est très bien payé pour l'époque. Une vie relativement insouciante. Et il produit des livres en moyenne, un par année en moyenne. Il faut savoir que pour écrire à l'époque, ce n'est pas facile. Et il fait des livres, il en a fait une bonne dizaine à peu près, donc célèbre, reconnu, certes. Il a des rivaux, mais les rivaux ne peuvent rien contre lui puisqu'il est protégé. Sauf que un autre événement inattendu va encore bouleverser la donne. En effet, à la cour, il y a des gens qui se disent quand même, c'est bonhomme, il enseigne de la théorie, il est un peu iconoclaste, à l'entendre, il y a une infinité de mondes, il remet en question des dogmes bien établis, ce n'est pas bien. Et cette rivalité va jouer comme pression autour du roi Henri III, pour le dire, c'est gentil, mais si on pouvait s'en débarrasser. Premier point. Deuxième point, il y a une polémique. Car en effet, on ne peut pas trancher cette polémique. Henri III va inciter son protégé à aller en Angleterre. Notamment à Oxford, en Londres et Oxford. Pourquoi ? Polémique. Deux thèses. Soit il est envoyé là-bas, puis un petit peu être relativement protégé, j'allais dire, de la jalousie commencer à naître auprès de la cour, à moins qu'il ait envoyé comme espion. On n'a jamais pu établir le cas. Est-ce que Giordano Bruno a commencé à faire ses premières armes comme espion au service du roi de France? Peut-être, ce n'est pas exclure. Il arrive à Oxford. À Oxford, il faut savoir que c'était une université maintenant très célèbre, mais à l'époque, c'était le centre. D'un système très archaïque, très ancien. Il y avait la Sorbonne en France qui était très repliée sur elle-même, et il y avait Oxford. Et là-bas, il arrive et il dit, écoutez, moi je professe mes notions, etc. Non, non, oui, etc. Et les gens lui disent, mais qui c'est ce bonhomme? Pour qui se prend-il? Il professe des idées comme si c'était une vérité révélée, c'est un Français. Alors, déjà l'université va lui battre au froid. Et il aura une haine anglaise contre lui. Dès le départ, il est mal accueilli. Par contre, à la cour d'Elisabeth Ier, reine d'Angleterre, il est très bien accueilli. Et donc, on voit le parallèle en France, soutenu par le roi Henri III, mais détesté littéralement par les autres nobles. Et certains dans le sillon de l'Inquisition. Et en Grande-Bretagne, en Angleterre, admiré par la reine, mais détesté par les autres nobles et les professeurs d'université. Il reste un an ou deux, et ça se passe mal. On lui fait comprendre qu'il est bien gentil, mais qu'il ferait mieux de revenir en France. Et il est littéralement chassé d'Angleterre. Il arrive en France, et à ce moment-là, pas de chance pour lui. C'est Mordante, je crois que ça peut être, qui était un des pères du compas, du fond du compas, et qui lui dit, mais vous avez utilisé mes notions de compas dans vos livres, vous me devez des droits d'auteur. Donc déjà, les querelles de droits d'auteur commençaient déjà à l'époque. Mais on n'a rien inventé. Et du coup, il y a une grande dispute. Giordano Bruno répond vertement. Et finalement, c'est une haine qui s'installe entre les deux. De nouveau, il doit partir. Il doit partir. Alors, où peut-il aller? Il va aller, puisque la France ne se passe pas très bien. Certes, il y a la protection du roi, mais il y a quand même trop de rivalité. Il décide de s'installer en Allemagne. Donc, Italie, France, Suisse, Angleterre, Allemagne. C'est l'autre auteur avant l'heure. Pour contrer et forcer, je reconnais. Il va en Allemagne Et il y a deux universités. La première université lui dit non, vous ne m'intéressez pas. Et la deuxième université lui dit ouais, volontiers. Wittenberg, l'université de Wittenberg, accueille à bras ouverts et pendant un an il va enseigner. Pas de chance, il se prend de bec avec la hiérarchie et on lui fait comprendre qu'il est bien gentil, mais il faudrait qu'il voie un peu ailleurs son destin. Donc il repasse par la Suisse. Il repasse par la Suisse et là il produit encore toujours des livres. Le grand choc. En 1588, il apprend la nouvelle. C'est l'assassinat du grand maître. Le dernier grand protecteur de Giordano Bruno vient de mourir, assassiné par le moine, tu connais bien.
Clément.
Bravo. Le prénom. Mais encore.
Mais encore.
On peut l'aider.
D'accord.
Bravo.
Qui? Je n'ai pas entendu.
Jacques Clément.
Ah oui, Jacques.
Donc Jacques Clément, un moine qui a assassiné Henri III, et là c'est tonnerre, parce qu'il ne peut rien faire, il n'y a plus aucun protecteur. Nous sommes à l'orée donc des années 1590, il tourne entre la France, la Suisse, etc. Mais c'est toujours une vie marginale, vagabonde, etc. Nulle part il peut se poser, nulle part il peut créer un foyer, nulle part il peut être tranquille. Et en 1591, il croit enfin tenir la bonne réponse. En effet, un jeune praticien qui est de la famille des Doges de Venise lui demande de venir à Venise pour s'occuper de lui enseigner la mnémotechnique et de lui enseigner également ce qu'il s'est mis aussi dans la magie, de lui enseigner un petit peu tout ce qu'il sait. Et se dit, qu'est-ce que je fais? Je reviens, l'Italie c'est dangereux, j'ai pas de bons souvenirs. En même temps, c'est un jeune praticien qui m'hébergera, quelqu'un de bien, de sérieux. Et si je revenais? Alors, on le sait maintenant, et c'est une exclusivité que je peux vous révéler aujourd'hui.
TFA.
Comment?
Une exclusivité
Dans
TFA.
l'exclusivité TF1, il est revenu non pas parce qu'il était hébergé, mais surtout parce qu'il visait la chaire de mathématiques de l'université prestigieuse de Padoue. Il s'est dit, si je reviens, je suis à côté de Padoue, je vais pouvoir enfin enseigner, protégé par l'université, cette fois-ci je suis stabilisé, fini les pérégrinations. Fini le côté vagabond, nomade, etc. Et il décide de venir voir ce fameux praticien. Hélas, trois fois hélas, ça se passe très mal. En revenant, normalement, le praticien accueille les bras ouverts. Il est admirateur de son œuvre. Et le praticien lui dit, écoutez, je vais vous louer une maison. Vous serez hébergé. La seule chose que je vous demande, enseignez-moi vos trucs et astuces. Et il y a quiproquo. Giordano Bruno estime que du simple fait de sa présence, le praticien devrait être honoré. On ne devrait même pas lui demander de travailler. C'est indigne, puisque finalement, il vient, comme un peu Léonard de Vinci. Et celui qui l'héberge a le tout bête de lui demander de travailler pour lui. Où va-t-on sans nous travailler? C'est la fin du monde. Donc il y a quiproquo dès le départ. Lui estime qu'il est bien payé par sa présence, et lui, le praticien estime qu'il est floué. Apprends-moi la mnémotechnique. Il dit, écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Et le praticien dit non, apprenez-moi encore d'autres choses. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et il va y avoir un début de zizanie entre le praticien qui l'a hébergé et le jeune, enfin le jeune, moins jeune maintenant, Giordano Bruno. À tel point que, coup de théâtre, celui qui va l'héberger va l'empêcher de sortir de la maison, parce qu'il voulait s'évader. Il enferme à clé, on se croirait dans un vaudeville de théâtre. Il l'empêche de sortir, lui dit alors, est-ce que tu es d'accord pour m'enseigner? Il dit non, je veux pas. Pas de problème. De ce pas, il fait quelques centaines de mètres et va dénoncer à l'Inquisition de Venise, Giordano Bruno, disant, j'ai arrêté un hérétique de première grandeur. Que fait l'Inquisition de Venise? Elle le récupère et elle va l'interroger. Alors je vous rassure quand même, l'interrogation, c'est pas une interrogation comme maintenant, une interrogation musclée, on va dire. Physique un peu poussée. Et il se défend, il dit, attendez, qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce qu'on me reproche? Que je tienne des théories de ce style? Écoutez, moi je peux les argumenter, je peux les défendre, je peux les justifier. La Terre n'est pas le centre du monde, en effet. C'est une mauvaise lecture de la Bible. Et il se défend. Il se défend tant et si bien que, incroyable mais vrai, il est à deux doigts d'être libéré. Il va être libéré même. Et là, c'est le retour à la liberté, le retour à l'indépendance, et peut-être la fin de ses problèmes. Sauf que, et c'est exceptionnel, on l'a jamais vu, j'ai fait des études comparées avant et après, je n'ai jamais vu un cas équivalent, le pape Clément VIII demande au doge de Venise, à Sérénissime, de lui restituer le prisonnier. Le doge dit non, plaisantez, ce n'est pas la tradition à Venise. Quelqu'un qui est jugé à Venise, il est soit condamné, soit libéré. Mais s'il est libéré, c'est un homme libre à Venise. En aucun cas, il y aura une convention d'extradition entre Venise et Rome. Alors, le pape lui dit, attention, mais ce Giordano Bruno, c'est pas un habitant de Venise. Ce que vous dites, c'est vrai pour un habitant de Venise. On peut les protéger de cette manière. C'est un habitant, enfin, un originaire de Naples. Donc, aucun rapport avec vous. Si vous voulez nous l'extrader, il n'y a pas de honte à le faire. Et pour la première fois dans les annales, Venise, alors que le Sénat s'était opposé à l'extradition, alors que la Chambre des parlementaires s'était opposée, sous la pression du pape, qui s'est directement mêlé au système, le doge va extrader Giordano Bruno à Rome. Et Rome va récupérer, on est autour de 1592, le prisonnier enchaîné. Que va-t-il se passer? La suite, dans 6 mois, non, je plaisante.
Non, mais je propose une page de publicité.
Tout à fait. Que va-t-il se passer? Je suis très intéressé, parce que d'un côté, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Sauf que, à Rome, on a développé une série de critiques virulentes qui vont au-delà de ce que lui reprochait la Sérénissime. On lui reproche d'avoir des théories hérétiques. On lui reproche d'être athée. On lui reproche de démolir les fondations de la religion. On lui reproche beaucoup de choses. Je rappelle qu'on n'a pas affaire à un savant. On a affaire à un philosophe, à un écrivain, à un passionné d'espace, puisqu'il s'intéresse énormément à la cosmologie, passionné de mathématiques, écrivain de talent. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? La magie et l'occultisme. Bon, il est... Et on va l'interroger. Et à chaque fois, on lui dit, écoutez, c'est simple. Ce qu'on vous demande, c'est de vous renier. Et il a deux doigts de se renier, puis après il fait marche arrière. Et ça dure. Alors, à chaque fois, il y a des interrogations. Des interrogations, je n'ai déterminé jusqu'à 20 séances de torture poussée. Quand je vais dire torture, ce n'est pas une journée. C'est des séances qui durent des semaines, voire des mois. Et, incroyable, il tient le choc. Alors, d'un côté, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je me renie? Puisque je crois dans ce que je dis. Je crois. Pour moi, il n'y a pas d'ombre de doute. La Terre n'est pas le centre du monde. La Terre tourne autour d'un soleil, comme il y a plusieurs soleils dans la galaxie, comme il y a une infinité de mondes, comme il y a du vivant, etc. Et il a poussé très loin le bouchon, puisque à un moment donné, toute sa théorie est tout à fait différente. Il dit, moi je renie la plupart des dogmes, parce que, et il argumente chaque fois systématiquement. Après, il marche arrière, il dit, bon, je suis prêt à dire que je me suis trompé, mais à partir de maintenant, pas à partir d'hier. Donc c'est un jeu du chat et de la souris, qui va durer pas moins de 8 ans. 8 années, imaginez, attendez, la torture a duré des mois, 20 séances de plusieurs semaines et de plusieurs mois où il est torturé. Alors je vous passe tous les détails, la corde, la baignoire, ça ne manque pas. Ils avaient beaucoup d'imagination à l'époque, beaucoup. Et, mais il ne craque pas. Il ne craque pas, on lui dit, écoutez, on est prêt à vous restituer votre liberté, etc. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et il tient bon, il tient bon. Alors le problème, si vous voulez, c'est que la difficulté qu'il aura, je pense par exemple au cas de Galilée, que j'avais évoqué ici même avec vous, c'est que Galilée était un authentique savant. Et que Galilée, dans les mêmes conditions, s'est renié. Et en disant en voix basse, et pourtant il tourne. Mais il s'était renié. Et il a sauvé sa vie. Première différence. Bruno n'est pas un savant. C'est un philosophe. Donc beaucoup plus dangereux. Deuxième élément, qui va interroger Giordano Bruno? Robert Bellarmin. Robert Bellarmin, c'est l'inquisiteur en chef. Et qui va être plus tard canonisé par Pie XI. Parce que Pie XI avait une grande admiration pour lui, le prédécesseur de Pie XII. Qui va être canonisé parce que c'était un grand érudit. Mais Bellarmin a interrogé pendant les 8 ans directement Giordano Bruno. Et c'est lui qui avait initié les premières interrogations de Galilée en 1616. Et quand il y aura le reniement de Galilée, Bellarmin est déjà mort. quelques années. Mais on le retrouve l'homme clé dans deux affaires décisives. Giordano Bruno interrogé par Robert Bellarmé, et Robert Bellarmé qui va interroger également Galilée. Toujours est-il qu'il refuse de se relier. Après, il a du laisse, il revient, etc. On le met dans un cachot, dans des conditions innommables, et il pourrit. Mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui pourrissent également dans les prisons, dans les cachots, mais d'autres craquent. Au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, lui il craque pas, il ne craque pas. 8 ans, imaginez. Hein. Jusqu'au moment où Clément lui dit j'en peux plus. C'est un personnage qui me rend la vie infernale. Il aurait dû craquer depuis belle lurette. Ce philosophe, c'est un poison pour nous, pour la société, pour la stabilité du monde, je veux dire, de la Renaissance. Il faut en finir. Comment en finir? Il faut savoir que quand quelqu'un devait mourir, l'Inquisition le renvoyait au bras séculier de l'État, de manière à ce que la condamnation à mort ne soit pas votée par une institution d'Église, qui ne doit pas verser le sang, mais par une institution politique séculière. Et le pape lui dit, écoutez, vous ne voulez pas vous réunir, on vous laisse encore 20 jours, il ne se remet pas. Écoutez, dans ces conditions, je vous remets au bras séculier. Et les juges vont devoir s'attuer. Et on lui dit, écoutez, on est prêt à faire des procès, mais je ne peux pas. Il a compris qu'il allait mourir. Il a compris qu'il allait mourir, il s'est dit, quitte à mourir, autant être fidèle à ses propres théories. Et il va dire, écoutez, au juge, vous devez prendre une décision. Mais la décision que vous allez prendre, elle vous coûtera beaucoup plus à vous que moi pour la recevoir. Je sais que je vais mourir, mais je suis serein. Tandis que vous allez avoir une responsabilité colossale en me condamnant à mort, alors même qu'on n'ait pas les arguments pour le faire. Les juges le condamnent néanmoins à la peine de mort. Et regardez bien cette nuance sans verser le sang. On peut dire que c'est sympathique, ça fait du bien. Sans verser le sang, au moins, ce sera une mort tranquille. Pas du tout. Sans verser le sang veut dire que, d'une part...
Il va brûler.
Voilà, exactement, il va brûler. Mais en plus, vous savez qu'il y avait une tradition à l'époque, c'est un usage, c'était d'étrangler la personne avant qu'elle soit sur le bûcher, de manière à ce qu'elle ait une mort, comment dire,
douce,
relativement douce.
Indolore.
Je ne dis pas inodore et sans saveur, parce que dans le cas d'un bûcher, c'est différent. Mais on lui a refusé. Il ne sera pas étranglé par le bourreau. Et le 20 janvier 1600, donc la condamnation à mort est promulguée, le 20 janvier 1600, et la mort doit arriver le jeudi 17 février 1600, il a 52 ans. Alors, ils ont décidé, les juges, de faire un exemple. Pour bien mettre la honte et le dénigrer, non seulement donc il ne sera pas étranglé, deuxième élément, il sera brûlé entièrement nu. Donc il est nu, mis sur le bûcher, et devra brûler. Ensuite, il y a un grand danger qu'il faut éviter à tout prix. C'est que c'est bien beau qu'il brûle. Mais avant qu'il brûle, il peut parler. Or, il est très dangereux, puisque quand il parle,